Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est en mode Ligue des Champions, encore débrief de ce match Monaco, Paris Saint-Germain d'hier soir, victoire du Paris Saint-Germain, 3-2. Je pense que vous l'avez suivi, et si vous ne l'avez pas suivi, ben on va vous débriefer tout, on va vous expliquer tout ça dans Roten sans flamme avec une magnifique équipe comme tous les jours. J'ai de la chance d'être bien entouré avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Bah ça va, écoute, on a vu un match avec du suspense hier.
Écoute, ouais, bon, suspense.
Alors, en tout cas, ouais,
plus le scénario. Après, le reste. On est avec notre champion du monde. Il est là, Christophe Dugarry. Salut Dugas.
Salut Jérôme, salut Benoît, bonsoir à tous.
Salut Dugas.
Ça va Dugas, tu t'es régalé hier.
Très très bien. Ouais. Très très bien. Oh, non. C'est un match bizarre, mais écoute, bizarre, j'ai pris du plaisir quand même.
C'est vrai.
J'ai pris du plaisir.
C'est vrai. C'est vrai que c'était bizarre. Il y en a un qui a dû le regarder aussi parce que bah, il rêvait dans sa jeunesse de jouer au PSG. Non. C'est Benoît Costil. Salut Benoît.
Salut Jérôme, je croyais que t'as dit il y en a un qui est bizarre.
Oui, bon, ça j'aurais pu dire aussi.
Ouais, tu peux t'en parler, mec bizarre, nous accueillons.
Non,
exactement. Bon. Salut tout le monde en tout cas.
Benoît, ça va, t'es en forme.
Bon, ça va, ça
t'es,
va.
T'es sous la pluie en Bretagne.
Non, mais alors attends.
Eh, écoute, là, il y a un peu de soleil.
Menteur.
Bah, la vérité, la vérité.
Crois pas. Ouais.
Bah, sans déconner, vous avez pas vu mon Insta, je suis en t-shirt.
Non, mais alors attendez,
arrête, j'ai ma fille qui vit à côté de chez toi. Il pleut.
Appel à tous les Français qui ont des réseaux sociaux.
Arzal, exactement.
Allez suivre Benoît Costil, il se transforme en Hulk.
35 jours de pluie non-stop.
Il a un physique de catcheur, Benoît Costil. Il soulève des poids de la fonte. Il a une grosse chaîne autour du cou pour mettre des poids sur le cou.
Il s'est inscrit au... les gros camionneurs là qui
tu
t'es inscrit, c'est bon, t'as eu ton
le téléphone commence à chauffer pour la Kings League, Jérôme, donc si tu y es, il va falloir te découper.
Je sais que vous voulez tous venir dans mon équipe, mais bon,
non on va pas faire pour ton équipe.
Tu gagnes la Kings League toujours pas? Non.
Ben toujours pas, non mais j'ai l'impression que je vais pas avoir le choix, hein. Okay. Ils nous contaminent avec leur truc naze là.
C'est vrai. Mais Eric Dimeco est tombé dedans, hein, Dugas.
C'est tellement naze que tout le monde y vient.
Ouais, c'est vrai. Même les vieux, comme Dimeco.
On ne va pas parler de la croquette ce soir. Voilà, c'est ça.
Ah non, on fait ça pour
vous. Je vais dire un petit peu quand même.
On fait ça. Moi, je l'ai fait gratos.
On va débriefer ce Monaco Paris Saint-Germain qui a eu lieu hier soir, le 16e aller de Ligue des Champions, avec à 18h30 le procès de Désiré Doué et de ses célébrations après ses deux buts. Il a marqué un doublé. Voilà, il s'est caché les oreilles, il a mis le doigt dans les oreilles pour bien montrer qu'il n'écoutait pas les critiques qui le visaient. On en débattra donc à 18h30. À 18h45, l'autre affaire de la soirée d'hier, le Allo Jérôme, Edgar Groslo, notre correspondant en Espagne, sur l'affaire Prestiani. Cette histoire et ses accusations de racisme de la part des joueurs du Real Madrid et en particulier Vinicius à l'encontre de ce joueur argentin, on vous raconte tout. À 18h45, vous pourrez donner votre avis, Dugas, Benoît et Jérôme. Et puis à 19h, Roten se chauffe. Habib Bey est-il l'homme de la situation? C'est une question de minutes. Il devrait arriver officiellement à Marseille.
Plutôt intérêt parce que c'est lui qui va signer.
En tout cas, on en débattra avec vous au 32-16, supporters marseillais. On vous attend. On aura toutes les infos avec Florent Germain. Mais tout de suite, victoire en trompe-l'œil pour le PSG hier soir.
Aujourd'hui, je découvre pour la première fois les fameuses pâtisseries trompe-l'œil.
203 second poteau, la tête.
Le but.
Et
le
voilà une balle à goût en second poteau.
On a mal commencé le match, on a fait quelques erreurs de duel qui nous fait de prendre le but.
Ça fait plusieurs mois, voire même plusieurs années que c'est à la mode.
Oh, le coup de tonnerre à Monaco, puisque la SM mène 2-0.
Cucu Jérôme.
Cette année, la pression c'est différent. Tout le monde sait que nous pouvons gagner, n'importe quelle équipe, et c'est une pression différente.
On a ici une variété de pâtisseries trompe-l'œil.
Doué dans la surface, la frappe de Doué. Le but parisien. Désiré Doué.
L'idée du trompe-l'œil, c'est ludique, c'est rigolo.
Et le but, l'égalisation parisienne. L'égalisation d'Achraf Hakimi.
Madame, c'est la Champions League.
J'ai envie de voir les trompe-l'œil. Oui, c'est
Madame,
beau,
c'est la
mais
Champions
est-ce que
League.
C'est bon?
Doué la frappe, le doublé. Mais il est trop fort. Une entrée éblouissante.
J'essaye de jouer comme d'habitude. J'ai marqué, j'ai pu aider l'équipe, c'est mon boulot.
Attention à ne pas vous faire tromper par les mauvais trompe-l'œil.
C'est juste une illusion.
On enregistre au micro, comme ça on récupère pour les prods, c'est fantastique. Parlons donc de ce match d'hier et de l'entame de rencontre catastrophique sans PSG à Monaco. 1-0 pour les Monégasques après 57 secondes, 2-0 après 18 minutes, doublé de Balogun et même un pénalty raté par Vitinha à la 22e. Les Parisiens ont ensuite pu compter sur le talent de Désiré Doué, entré à la place d'Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé, victoire 3-2 dans un match terminé à 11 contre 10 face à une très faible équipe monégasque. Victoire difficile à aller chercher, ça confirme les lacunes défensives du PSG. On va en parler avec Arthur Perrault, le suiveur du PSG pour RMC. Salut Arthur.
Salut messieurs. Salut Arthur. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors comment on explique cette entame?
La soirée était bonne à Monaco.
Catastrophique. Ah, la fin de soirée était mieux que le début.
Je sais pas. Bon,
du TCERN.
Oui, t'as le bonjour de tous les employés du SAS.
Ah,
soirée vécue comme un combat physique, mais surtout psychologique. Hein, remporté par le groupe parisien après un pénalty raté et deux buts encaissés en début de match, Paris a totalement inversé la tendance. Le capitaine Marquinhos était très satisfait après la rencontre.
Je pense que toutes les victoires, ça fait du bien, ça donne la confiance. On a mal commencé le match, on a fait quelques erreurs des duels et des positionnements défensifs qui nous fait de prendre le but. Et notre équipe, elle est comme ça, même quand on perd 2-0, quand on perd 5-0, si on gagne, si le match est difficile, si le match est facile, et on ne change rien, c'est notre philosophie. Et encore une fois, on a montré le mental pour surmonter un match ici, c'est très difficile. On a les dernières occasions et confrontations qu'on a eues ici, c'était toujours des matchs compliqués. Et alors, cette victoire, ça donne beaucoup de confiance pour la suite et j'espère qu'on va continuer dans cette lancée qu'on a fini le match.
Avec 73% de possession de balle sur le match, Paris s'en est remis à une prestation XXL de Désiré Doué. Deux buts et une passe décisive. L'attaquant, pointé du doigt la semaine dernière pour sa prestation mitigée à Rennes, a répondu présent. L'entraîneur Luis Enrique en conférence de presse.
Ce que nous savons, c'est que nous sommes une équipe très jeune. L'année dernière, une équipe très jeune que personne pensait qu'on avait gagné. Cette année, la pression, c'est différent. Tout le monde sait que nous pouvons gagner, n'importe quelle équipe. Et c'est une pression différente à gérer. Je suis très content pour Des, parce que la dernière semaine, tout le monde a critiqué, a tué les joueurs. Dans ce moment, il a été sensationnel. Il a montré quel caractère, quelle personnalité comme joueur. Il est très jeune, mais a une personnalité, un niveau spécial. Et je suis très content pour lui. Il a aidé l'équipe dans les meilleurs moments et c'est très important pour nous.
Seul point noir de la soirée, la sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé à la 26e minute. Gêné au mollet à la veille du match, le Ballon d'Or a pourtant débuté cette rencontre comme titulaire. Il a passé des examens complémentaires aujourd'hui. Des nouvelles sont attendues dans les prochaines heures. À retrouver évidemment sur rmcsport.fr.
Voilà, pour l'instant, on ne peut pas en dire plus, mais on travaille le dossier Ousmane Dembélé. La une de Rotten sans flamme ce soir, est-ce une victoire inquiétante pour le PSG 32-16 Jérôme, t'étais inquiet après cette victoire.
Quand tu gagnes, il n'y a rien d'inquiétant. Déjà, ça, c'est sûr, c'est comme une défaite qui n'a rien d'encourageant quand tu perds. Après, t'as juste un contenu à analyser et en effet, comme l'a dit Marquinhos très justement, ils ont fait des erreurs défensives déjà dans un premier temps où ils sont menés 2-0 face à une équipe qui est pas du niveau de la Ligue des Champions. Ça me fait mal hein, de dire ça sur l'AS Monaco, mais la réalité c'est que cette équipe elle est très moyenne et on l'a vu par la suite. Et même qu'à 2-0, t'as l'impression que c'était un match de Coupe de France pour le PSG qui jouait un petit pousset et qu'ils ont jamais paniqué et la force tranquille a fait que ils ont gagné, ils ont remonté 1-0 à 2-1, 2-2 et puis gagné 3-2 et s'ils avaient forcé je pense qu'ils auraient gagné 4 ou 5-2. Après la deuxième mi-temps elle est aussi masquée par le fait que Golovin prend un carton rouge assez vite, donc Monaco a plus du tout montré de choses offensivement. Ils en ont montré très peu en première mi-temps mais rien du tout en deuxième. Je crois que c'est un tir en tout sur toute la deuxième mi-temps et même pas cadré en plus. Le PSG a ultra dominé. C'est encore la force. Ils ont pas forcé, si tu veux, leur talent pour aller s'imposer à Monaco.
Tu peux t'inquiéter de ce qui s'est passé quand même.
Moi,
deux buts comme
Non, mais je m'inquiète pas. Le plus important sur un match de Ligue des Champions, aller-retour, un premier match, et encore plus à l'extérieur, c'est de prendre un avantage sur l'adversaire. Donc, à l'époque, tu pouvais faire un match nul avec des buts à l'extérieur, ça te donnait un petit avantage. Là, cette année, maintenant, avec la nouvelle formule, ça te donne plus d'avantage. Donc, le match nul, tout le monde est sur le même pied d'égalité sur le match retour. Là, ils ont gagné. Écoute, ils prennent un avantage au niveau du score, un avantage psychologique.
Je peux pas être satisfait de ce match, quand même.
Mais satisfait. Mais pourquoi, les gars? gars, le but d'un match aller-retour, c'est pas d'écraser Monaco 6-0. S'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait. Sauf qu'il y a quand même un adversaire, même s'il est d'un niveau moyen, encore une fois, je pense que le PSG, avec les forces en présence, avec la qualité de l'équipe, et on est là pour le dire de semaine en semaine, en effet, c'est pas la même qualité d'équipe, c'est pas la même dynamique que l'année dernière, à la même époque. C'est vrai, la réalité, elle est là. Il y a des joueurs qui sont bien en deçà de leur performance de l'année dernière. Donc là, ouais, au niveau de la progression des jeunes joueurs, bah, les jeunes joueurs, ils ont du mal, si tu veux, à garder une certaine constance et une régularité. T'as des joueurs comme Dembélé, bah, malheureusement, c'est court sur courant alternatif. En effet, des fois, il est bon quand il est sur place. Et puis là, il se reblesse. Donc là, combien de temps ça va durer encore? 3 semaines? 1 mois? Je sais pas. On sait pas exactement. Ruiz, c'est la même chose au milieu de terrain. Parce que si tu veux aller par là, il y a des joueurs, Ruiz, on nous dit c'est un petit coup au genou, mais c'est plus grave que ça, ça fait 15 jours qu'il est au frigo. Donc à l'arrivée...
même avec deux absents, tu peux faire le match
mais
d'hier.
Mais c'est pas ça, c'est que je trouve qu'il y a des joueurs, sur le match d'hier par exemple, Hakimi m'a rassuré, tu vois. Hakimi, je trouve qu'il a été beaucoup plus dynamique que les derniers matchs. Mais à l'inverse, Nuno Mendes, il est inquiétant depuis 2 matchs. Alors que c'était le meilleur depuis le début de saison. Donc, écoute, pour l'instant, ils ont pas un niveau, si tu veux, moyen, qui est l'année dernière, qui était quand même très élevé, et après bonifié par la qualité individuelle de certains. Pour l'instant, ça, ils l'ont pas. Il y a des joueurs qui sont assez réguliers. Il y en a pas beaucoup. Alors, je parlais de Nuno Mendes, mais depuis 2 matchs, il est pas bon. Barcola, moi, je trouve qu'il est, et c'est pour ça qu'il est titulaire, hein, et c'est pour ça que Doué était remplaçant, c'est que Barcola te donne quand même beaucoup de dynamisme offensivement, parce qu'il prend les espaces, parce qu'il court, parce qu'il fait beaucoup d'efforts. Il est pas bon dans la finition, on est d'accord, mais ça peut se corriger encore une fois. Et sur le match d'hier, il est quand même très percutant. Kvaratskhelia, on peut y aller, si tu veux, on peut faire les uns après les autres. Kvaratskhelia, c'est quand même décevant sur l'ens de ce qu'il nous a montré l'année dernière et ce qu'il nous montre là sur Paracou, c'est décevant. Ouais. Et pour l'instant, si tu veux,
il a tiré 8 fois, il doit marquer hier à Kvaratskhelia.
Mais exactement, Duga, tu as raison. Et puis après, la grande force, et là je finis là-dessus et je donne la parole à Duga et à Benoît, la grande force du PSG l'année dernière, et même tout au long du mandat de Luis Enrique, c'est le milieu de terrain. Et le milieu de terrain, il manque aujourd'hui de volume, il manque de qualité physique pour récupérer les ballons. Alors pas forcément en allant tacler, mais par la vision. Je trouve que Vitinha, il est en dessous dans la récup du ballon. Que João Neves, c'est la même chose.
Est-ce qu'il met en difficulté la ligne défensive?
Et ben, c'est pour ça.
Qui court de plus en plus face à son but.
Ouais. Et puis des erreurs. Et puis Benoît, je suis désolé, mais des erreurs individuelles. Le premier but, quand tu vois le placement de Marquinhos, comment il est quand Golovin...
Marquinhos, j'ai pas compris son placement. Tu vois que t'as Pacho qui a le cul entre deux chaises, qui se décide dans un second temps d'y aller, ce qui fait que Mendes rentre intérieur au final dans
c'est pour ça ce qui rend cette équipe aujourd'hui moins forte que l'année dernière.
Et le deuxième but, tu le prends sur une touche.
Et toi, Jérôme, t'es pas inquiet pour le moment?
Je suis pas inquiet. S'ils avaient été menés de la sorte à Benfica, par exemple, parce qu'il y a eu Benfica Real Madrid, au stadio de la Luz, poussé par 90 000 personnes. Je suis pas sûr qu'il gagne le match 3-2.
Duga, est-ce que c'est une victoire inquiétante? Est-ce que tu valides le concept déjà?
C'est particulier. Après, heureusement qu'on peut analyser autre chose que la victoire. On peut pas se permettre de dire bon, ils ont gagné. Circuler, il y a rien à voir. C'est sûr que cette équipe du Paris Saint-Germain, elle impressionne plus ou beaucoup moins que ce qu'elle pouvait impressionner par rapport à la saison dernière. C'est sûr qu'on peut pas s'empêcher de penser que s'ils avaient joué un adversaire de bien meilleure qualité, je sais pas si ce match ils le gagnent. Je sais pas si ils le perdent, peut-être pas avec 2 buts d'écart. Ça a été le cas face à Rennes, donc c'est pas non plus démontré les Rennais. Pourtant, ils ont réussi à tenir le résultat. Donc là, ils ont joué une équipe de Monaco très très faible avec 10 absents, 10 joueurs au statut important qui étaient absents. Donc cette équipe de Monégasque, sincèrement, ça me faisait de la peine de les voir jouer. C'était assez affligeant de voir ce genre de prestations. Moi, écoute, Luis Enrique, il nous explique que, alors c'est de l'auto-persuasion certainement aussi un peu, il nous explique que de pas s'inquiéter et que les choses vont arriver et se feront comme la saison dernière. Ok, Eh bien, qu'est-ce que tu veux? J'attends, mais moi, je le vois pas. Je le vois pas. Alors après, aujourd'hui, Luis Enrique peut dire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et on se doit de lui donner raison. On verra à la fin si l'objectif de Paris est de gagner la Ligue des Champions. Eh bien, écoute, je suis inquiet. Si c'est de faire un quart de finale, un demi-finale et de montrer non, de jolies choses.
Non, mais évidemment, l'objectif, gagner encore, du gars. Il n'y a pas. Forcément. Quand tu l'as gagné, tu veux la gagner encore. Tu vas pas te dire je vais viser un quart de finale ou une demi.
Écoute, c'est pas impossible, mais je les vois beaucoup moins forts.
Ah bah, c'est sûr.
Que d'autres concurrents directs. Ah, voilà. Exactement. Alors je suis inquiet. D'accord. Alors si c'est pour gagner la Ligue des Champions, quand je vois le niveau de Paris depuis plusieurs semaines, pas depuis ce match-là, depuis plusieurs semaines, personne ne peut te dire, moi je suis rassuré, et même les gens qui sont venus les uns après les autres à notre micro et qui nous expliquaient la fatigue, que c'est normal, que c'est ci, que c'est là, oui, aujourd'hui on est presque fin février, sur un 16e de finale de Ligue des Champions, et on retrouve toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes problèmes, on voit pas de progression particulière. On pensait justement, par exemple, avoir moins de questions à se poser avec Dembélé, on se dit il va enfin enchaîner les matchs, bam
il se rend
blessure, donc pendant 3 semaines, 1 mois, il va plus pouvoir jouer. Doué, est-ce qu'il va retrouver son niveau? On n'en sait rien. Bon, mais là il arrive, il marque quelques buts, mais on va pas non plus faire comme face à l'OM. C'est pas parce qu'il a marqué 2 buts face à Monaco, au fantôme de Monaco, qu'on va se dire ça y est, le gamin il a retrouvé son niveau. On n'en sait rien. Peut-être que Hakimi, le milieu de terrain, Marquinhos, est-ce que c'est inquiétant ou pas inquiétant? Peut-être cette défense qui prend quand même beaucoup de buts. Ah non, vous inquiétez pas, c'est pas grave, il y a rien à voir. Luis Enrique a dit ça va bien se passer, donc ça va bien se passer. Ok, si c'est une nouvelle formule, une nouvelle façon de s'auto-persuader que tout va bien, bah écoute, moi je fais que suivre. Mais moi je pense pas que tout va bien, non, je pense pas.
Benoît.
Mais je rejoins Christophe sur son analyse. En fait, je me dis que il suffit pas d'appuyer sur le bouton pour se dire tout va passer, tout va bien se dérouler, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on voit quand même beaucoup plus de largesse défensive. La doublette Pacho Marquinhos, et Pacho est un monstre, Marquinhos également. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile aussi au milieu de terrain. Alors moi je pense que, et même si on a un Zaire Emery qui a retrouvé un très bon niveau, je trouve que c'est cette connexion à trois, Fabien Ruiz, Neves, Vitinha, où les trois ensemble, quand ils se connectent ensemble, en pleine forme ensemble, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Maintenant, aujourd'hui, je trouve qu'ils n'ont pas retrouvé leur niveau et qu'ils performent moins à la récupération du ballon aussi. Ce qui met en difficulté la charnière centrale. Et j'ai le sentiment que, et je me trompe peut-être, que les joueurs courent beaucoup plus vers leur but que l'année dernière. Et en plus, aujourd'hui, l'année dernière, à cette période-là, ou à l'instant T de la saison dernière, on avait un Gigi Donnarumma, c'est pareil, mais qui faisait aussi les arrêts.
Et ça compte. C'est vrai, ça compte. Il y a des dossiers comme ça, il y a des tauliers qui sont plus là.
C'est difficile, on peut rien reprocher à Safonov hier.
Il
fait un très bel arrêt à mon nez sur la frappe. Je ne sais plus qui est-ce qui frappe, où il a dévidé au bout des doigts, magnifique. Mais en tout cas, je sens moins de sécurité. Et de plus, c'est qu'on a du mal à voir tous les joueurs, tous en même temps, au top de leur forme, en fait.
C'est ça le problème.
Et j'ai le sentiment qu'il faut qu'ils soient tous au top de leur forme.
Est-ce qu'il y a une erreur de gestion avec Ousmane Dembélé, d'après vous, d'ailleurs?
Non, mais arrêtez avec ça.
Bah quoi, il était incertain, on sait qu'il est sujet aux blessures.
Mais comment
il s'est blessé deux fois cette saison.
Les gars, arrêtez avec ça. C'est que les joueurs, on est passé par là.
Il y a une erreur d'appréciation, certainement. Et du joueur.
Non, mais du joueur. Le truc du gars qui était important dans le processus des infos concernant son état de santé là à Monaco, c'est-à-dire que après, donc veille de match, il a de nouveau cette gêne, il le signale au staff médical, à froid en rentrant à l'hôtel, on lui redemande comment ça va, et là il dit vraiment il n'y a pas à s'inquiéter, tout va bien, je me sens à 100%, comme chaque joueur peut le faire dans ce type de situation. Et sauf que le seul truc du gars qui peut être, où on peut s'interroger, c'est que parfois dans ce type de situation, Enrique applique le principe de prudence qui s'applique au Paris Saint-Germain à plein de joueurs depuis le début de saison, et que là cette fois-ci, Ousmane Dembélé lui a fini par être titulaire sur ce match-là.
Mais moi, je vais te dire, c'est très simple. Hein, tout ce que tu dis est vrai. Et je pense que si les joueurs, et on en revient à ce qu'on disait avec Benoît, c'est-à-dire que les joueurs ne sont pas tous en forme, à leur meilleure forme au même moment. Il y en a qui sont en difficulté. Le fait que Doué, hier, était remplaçant, c'est parce que c'est pas juste un choix comme ça de Luis Enrique, c'est parce que Doué, il est moins bon depuis pas mal de semaines.
Est-ce que t'en as vraiment besoin de Dembélé hier?
Mais, ouais, t'as raison. Non, mais t'as pas besoin. Mais moi, je vais te dire, s'il y avait eu un bon Doué, s'il y avait eu un bon Mayulu, mais Mayulu, il est blessé. Je suis sûr qu'avec les interrogations qu'il y avait sur Ousmane avant le match, peut-être qu'il aurait pas joué. Mais après, si tu fais confiance aux joueurs, et on est passé par là, ce que je veux dire,
arrêter avec ça, justement. Non, mais Jérôme, on est passé par là. Et 90% des entraîneurs, si le joueur, il a un doute la veille, il joue pas, sauf si c'est le match de l'année. Là, c'est pas le cas. C'est la deuxième fois, tu connais l'histoire physique de Dembélé,
Alors donc il faut qu'il arrive à rentrer dans ton cerveau à dire.
Il faut lire entre les lignes. Au bout d'un moment avec les Dembélé, tu sais comment ils fonctionnent.
C'est vrai. Ce qui est inquiétant, c'est que s'ils marquent, ils font deux matchs, un temps d'arrêt, ils reviendront jamais.
Ça pour Dembélé, c'est catastrophique là. Exactement. Ce qui est arrivé.
Et tu
là.
Sais l'importance qu'a Dembélé dans le succès de l'année dernière et dans les potentiels succès qu'il va avoir. T'es obligé d'avoir un Dembélé autant.
Non mais arrêtez de me dire c'est pas grave. Bien sûr que c'est grave. Tu sors à la 26e minute de jeu avec tous les signaux qu'il a envoyés sur le début de match, parce que tu sais, tout à l'heure je me suis refait
en plus, c'est pénible le mollet.
Non mais du gars, je me suis refait la première demi-heure à l'heure à froid comme ça, parce que à chaud comme ça, quand tu regardes, tu dis et comment
il bosse, bien sûr. Il est sélectionneur quand même,
il aime son club. Qu'est-ce qu'il aime, ce club de la capitale?
Non, parce que hier j'étais partagé, il laisse Monaco en face, voilà. Donc écoute, j'ai regardé encore une fois tout à l'heure la première demi-heure, et en effet, quand tu vois les prises de balles de Dembélé, les pertes de balles de Dembélé, tu te dis que le mec, il était à 50%.
Et ben voilà, donc c'est une erreur, Jérôme, désolé.
Mais n'empêche que ça lui appartient. Dire, quand ton coach il vient te voir, t'as envie de jouer. Moi, au contraire, tu sais quoi, je trouve que il a envoyé un bon message, Dembélé, parce que moi je lui ai reproché sur le début de saison, et je sais, c'était les échos qu'on avait, de prendre un peu le temps, si tu veux, avec ses blessures, de prendre trop le temps, de dire oh là là, laissez-moi digérer le Ballon d'Or, la saison, champion d'Europe. C'est vrai, il a pris,
ça a payé, c'est répété,
il a pris beaucoup de temps. Là, en effet, je pense qu'il est rentré en mode, et comme tu disais, Benoît, d'appuyer sur le bouton depuis le mois de décembre en disant ça y est, maintenant la saison elle commence. Il voulait récupérer son meilleur niveau en enchaînant les matchs, et je pense qu'une petite blessure comme ça, une petite gêne, il s'est dit oh, allez, je vais passer au-dessus, et puis je vais.
Du coup, il sera mieux dans sa loge pour regarder ses copains.
Ah bah là, c'est terrible.
Pendant 3 semaines.
C'est terrible.
Accueillons Thomas, supporter parisien en 32-16.
Bon, on est dans la tribune.
Ah, j'aimerais bien.
Salut à tous.
Salut
Thomas. Bonsoir.
Comment tu vas?
Salut. Ça va, Jérôme, cher, merci. Bon, on a trouvé les meubles hier, ça va.
Ouais, bon alors, comment t'as pensé? Est-ce que tu penses que c'est une victoire inquiétante, comme le dit Benoît?
Inquiétante, en fait, ce qui peut m'inquiéter à la rigueur, c'est quand Dembélé, après Marseille, il dit on voulait montrer qu'on est de retour, en fait. Bah, si t'es de retour de cette façon, en jouant de cette façon, ouais, là, ça m'inquiète un petit peu. C'est-à-dire que t'es, comme l'a dit Benoît, en fait, tu t'enchaînes un match, un deuxième, puis tu repars sur une prestation un peu plus médiocre. Bon là, voilà, c'est le problème. Maintenant, moi, je cible quand même certains points d'ajustement dans cette équipe. L'année dernière, et on le sait tous, vous le savez tous, que pour gagner, et encore plus une grande compétition, il te faut un énorme milieu de terrain. Et Benoît l'a dit, quand tu as Vitinha, João Neves et Ruiz en forme et à leur niveau à 100%, oui, ils font partie du meilleur trio, du meilleur milieu du monde, ça c'est sûr. Et voilà, il faut les avoir à 100%. C'est les dépositaires du jeu, ils te font, et voilà. Puis Fabian Ruiz, on le voit quand même aujourd'hui, il manque à cette équipe. Et moi, je cible aussi, vous n'avez pas trop parlé, mais moi, le poste de gardien. Moi, je pense que le poste de gardien, mine de rien, on ne sait pas qui est vraiment titulaire en ce moment, on laisse sa chance à Safonov.
Bah là, ça paraît clair quand même, désormais.
On ne sait pas si. Oui, mais. Benoît, t'en feras pas un top gardien, Safonov. On le sait déjà, on connaît son niveau. Et pour gagner encore, là, je me répète, une grande compétition, il te faut un grand gardien décisif, on l'a vu. Donnarumma a été un grand gardien sur 6 mois l'année dernière.
Oui, mais tu le savais au début de l'année, tu le sais.
Jérôme,
ça,
je sais qu'on le sait.
C'est déjà être fort d'être un grand gardien pendant 6 mois, c'est déjà un exploit. Les gardiens, ils sont jamais forts, je vous le dis de suite.
Non, mais du gars, ce que je veux dire, c'est qu'il s'est mis à être un gardien de top niveau quand il fallait. Maintenant, là, je doute que le PSG trouve un gardien de top niveau d'ici la fin de la Ligue des Champions. Et puis moi, j'ai l'impression que
Thomas, excuse-moi, je te coupe là-dessus, mais arrêtez de penser que que c'est
le milieu fragilise gardien, la défense, fragilise le gardien.
Hier, on peut pas reprocher quoi que ce soit.
Le problème du PSG depuis le début de l'année, c'est quand même pas le poste de gardien en priorité. Tu vois,
mais c'est un poste hyper important. Je peux pas dire que le gardien, c'est catastrophique avec les gardiens.
Non, mais on te parlait de la, dans la phase.
Donnarumma, il te gagne la compétition à lui tout seul.
C'est vrai. Mais
tout seul, non.
Mais Thomas, on te parle de comment le PSG joue et la force qu'il dégage. Les faiblesses qu'on voit défensives aujourd'hui et même le manque d'allant dans le pressing et tout pour récupérer le ballon, c'est pas la faute du gardien, les gars.
Je te dis pas que tout, je le remets pas tout sur le gardien. Effectivement, le premier but hier, Nuno, il rate sa relance. Et après, il défend comme un poussin dans la surface. Évidemment que là, tu peux cibler les faiblesses défensives et ce que notamment dégage, la ligne de défense. Hakimi qui revient pas forcément encore physiquement à son meilleur niveau. Nuno qui rate son match hier. On attend mieux que ces gars-là, ça je suis d'accord. Donc je vais pas cibler que le gardien. Maintenant je te dis qu'il y a des postes hyper importants pour gagner.
Ça c'est vrai. Non mais ça on est d'accord. Thomas, tu gagneras pas la Ligue des Champions sans avoir un grand gardien. Ça on est d'accord.
Fait, un gardien qui ira se faire des parades.
Ah, vraie question ça, ouais, Thomas.
Et tu perds les deux si tu relances.
Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Non mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Mais là on dirait qu'on est dans le trap Areola c'est exactement la même chose. Ça fragilise les. Mais si.
Non mais répondez-vous, Chevalier... qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Jérôme? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui?
Mais moi je laisse Safonov. Mais vous êtes quand même dégueulasse. Tu vas dire que la défaite d'hier et la mauvaise pas la défaite en plus.
C'est pas ce que dit Jérôme.
La victoire.
Je te posais une question. Moi je n'ai rien dit.
Mais pourquoi tu veux relancer Chevalier sur le prochain match, sachant que Safonov il sort d'une victoire à Monaco? Franchement, ouais. Les deux buts, il n'est pas responsable.
Et puis il fait un arrêt qu'on oublie de parler.
En plus,
arrêt, côté droit, je crois, bout des doigts, il est beau.
Mais hein, c'est pour ça. Donc
j'aurais pas mis Safonov. Moi, j'aurais pas mis Safonov de début.
Oui, toi, t'aurais gardé Chevalier.
J'aurais laissé Chevalier. Mais maintenant que Stéphanov y est, tu vas pas remettre Chevalier. Stéphanov, il va au bout. Et puis voilà, il reste
au bout de la saison.
Bah oui, à moins qu'il
se fasse des cagades.
Deux matchs d'affilée à lui tout seul. Voilà, mais non, tu vas pas faire que ça.
On a des échos du club. Et la concurrence peut être prononcée d'ici la fin de saison.
Concurrence. Oui, comme il dit. Il y a quelque chose qui est en train d'être noté par le staff, c'est que Chevalier commence à aller bien mieux. C'est-à-dire que à la fois dans l'intégration où ça a été très compliqué, ça va mieux. Non mais du coup, laisse-moi terminer. Et dans les séances, même si vous allez me dire que c'est pas dans les matchs, dans les séances, il est aussi mieux.
Il est mieux.
Non, oui.
Et dans la vie du groupe, il est mieux. Et
c'est ce que je viens de te dire.
Ouais, ouais.
Et alors, il arrive tôt le matin.
Arrête, parce que je sais très bien de quoi tu veux parler.
Il arrive plus tôt le matin.
C'est pas qu'il arrive plus tôt, c'est qu'il est mieux intégré.
Il dort mieux. Il mange mieux.
Merci, Jérôme.
Non, mais je te pose la question.
Je te dis que l'intégration, et oui, quand on a pu entendre qu'il arrivait un peu dans son coin à un moment, ça va mieux. Il est mieux intégré aujourd'hui.
Arthur, merci.
Il se balade dans les rues de Paris, c'est mieux, c'est plus fluide.
Les infos sur la blessure de Dembélé dans la soirée sur rmcsport.fr.
Du moment qui s'entraîne bien déjà et qui digère le fait d'être passé numéro 2, c'est déjà la première chose. Après, on verra.
C'est dur. Hein.
Restez bien avec nous sur RMC dans Rotten sans flamme. Parce que dans un instant, on ouvre le procès de Désiré Doué et de ses fameuses célébrations hier soir. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h31 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. La deuxième demi-heure, c'est maintenant. On va parler de Désiré Doué dans un instant avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil et Benoît Boutron. À 18h45, on aura Edgar Grollo.
Oui, le Allo Jérôme, on va revenir sur les incidents qui ont émaillé le match entre le Benfica et le Real Madrid hier.
Scandaleux sur Vinicius.
Exactement, les accusations de racisme du Real. L'attaquant argentin Prestiani, on vous dira toute cette histoire et des suites qu'elle peut avoir.
Pas que le joueur, les supporters aussi.
Exactement. Donc rendez-vous 18h45. Mais on y va, on parle tout de suite du Golden Boy.
RMC, Rotten sans flamme.
On a été stupide. À un moment donné, il faut qu'on se rende compte des choses. Et on est dans le confort, on n'en fait pas plus. On pense que le match, il est acquis. Mais on est sanctionné. Parce que quand on n'est pas à 200%, on est une petite équipe, tout simplement. À un moment donné, tant mieux. On se fait punir, on a tendu la joue. Et bien, c'est notre faute, mais on est les rois des cons ce soir.
Le procès de Rotten sans flamme.
Ça, c'est un leader. Ça craque à chaud comme ça. Ouais, sans éléments de communication. Bravo, Benoît. Quel cadeau.
C'est après.
Il va t'appeler comme adjoint, hein,
c'est possible.
Ah, adjoint du sélectionneur Jérôme Bretagne.
Et pourquoi pas?
Ah, moi, je
entraîneur des gardiens.
Ah, bah oui.
C'est soit toi, soit Pascal Olmeta. Donc, bon.
Ouais, je préfère Benoît.
Ah, bah j'imagine.
J'espère bien. T'as des souvenirs de Kings, hein?
Ah, Pascal.
Il y a surtout des souvenirs de Pascal. C'est ça le problème.
Non, Pascal, c'est l'humoriste.
Ah oui, c'est vrai.
C'est important dans un groupe. Hein.
Ouais. Ah ouais, ouais, bah, de toute façon.
Donc, parlons de Désiré Doué qui a été.
Dans l'émission, c'est ce qu'il fait. Hein.
Homme du match hier avec son doublé à Monaco, deux frappes puissantes et précises du pied gauche. Ce qui a fait parler, ce sont ses célébrations. Sur le premier but, les mains sur les oreilles, donc pour célébrer. Puis le deuxième, les doigts carrément dans les oreilles. Ça, on avait déjà vu plus couramment cette célébration. Doué qui avait été critiqué depuis plusieurs jours pour son attitude nonchalante et son excès d'individualisme. On pensait qu'il était visé par les propos de Dembélé après la défaite à Rennes vendredi soir. Selon nos informations, je le précise d'ailleurs, ces célébrations ne visaient pas Dembélé ou un membre du PSG, mais plutôt les critiques extérieures. Il a voulu répondre aux critiques extérieures Désiré Doué. Donc on ouvre son procès.
Les critiques de Dembélé et les critiques des autres.
C'est un peu ça. Les critiques internes et externes. C'est plutôt les externes qui le dérangent. Voilà. Ouvrons donc son procès et le procès de ses célébrations avec un procureur finalement, c'est Christophe Dugarry. Bonsoir.
Bonsoir. Ah, il a changé d'avis.
Ah.
Oh, chuchu.
Un changement d'avis, parce qu'il y a deux avocats. Jérôme Rotten, bonsoir. Ah,
bonsoir. J'aurais pu
même pas y avoir de procès.
J'aurais pu l'attaquer.
Il a hésité, mais il a changé d'avis.
J'aurais pu l'attaquer, mais je vais le défendre.
Et Benoît Costil est également avocat.
À moins que monsieur Dugarry me.
Ah, on va voir.
Avocat depuis ce matin.
Et voilà, depuis ce matin.
Quel
j'ai pas fourni ma veste.
Et c'est Fred, supporter du Stade Rennais, qui va rendre son verdict. Ah
bah moi je pourrais être dans le staff de l'OM. Hein.
Bonsoir les amis.
Il y a trop de vannes là, c'est trop. Allez, allons-y, du gars, vas-y, commence avec tes arguments. Toi, ça t'a pas plu, ces célébrations de Désiré Doué?
Non, mais je trouve ça nul. Je trouve ça nul si tu t'offusques parce que t'as été critiqué, un tout petit peu critiqué pendant une semaine. Après que pendant des mois, il y a eu des lipettes, Golden Boy, le plus fort, le plus ci, le plus là. Et là, pendant une semaine où tes performances, elles ont été moins bonnes, et c'est aussi grandir. C'est, même si c'est un jeune joueur, c'est aussi grandir. C'est aussi montrer de la maturité, de reconnaître que tes performances, elles ont été un petit peu moins bonnes. Même ton propre coéquipier, il te l'a dit, il t'a envoyé un signe. Voilà, je trouve que c'est pas à la hauteur toujours de ces espèces de gestes qui veulent rien dire. Voilà, mettre ce doigt sur la bouche, sur les oreilles. T'entends pas le public, mais si, en plus tu nous montres le contraire en faisant ça, tu nous montres que t'as entendu les critiques, que tu les as écoutées, qu'elles t'ont pas plu. Donc tu, en plus le geste que tu fais, c'est le contraire de ce qui s'est passé. Donc je trouve que ça grandit pas le joueur. Je trouve que ça sert à rien. Je trouve que c'est de la provocation qui est ridicule. Si tu veux pas accepter quelques critiques, mais j'ose même pas imaginer le loustique si un jour il y a des moments beaucoup plus difficiles que ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à chialer ou quoi? Il va se mettre à chialer. Non mais j'ai été un des mecs les plus critiqués de France. Donc je sais ce que c'est.
Et les célébrations aussi, pas tu connais comme ça, Christophe. Tu connais aussi les célébrations.
T'avais pas une belle célébration, Christophe. Mais moi, je m'avais fait vibrer.
Non mais moi je l'ai fait à la Coupe du Monde.
C'était génial.
Je l'ai fait quand je tire la langue. Oui, mais ça a duré des mois et des mois et des mois. Oui. Il y avait des reportages de partout. C'était un acharnement. Là, excuse-moi. Qu'un joueur au bout d'un moment il puisse être vexé, qu'il ait envie de se défendre de cette manière-là ou d'autres manières. Bien évidemment qu'il a le droit. C'est pas très grave. C'est que du foot. Mais là, il n'y a rien eu, c'est ça que je veux expliquer, c'est que il s'est rien passé, ses performances sont un petit peu moins bonnes, les siennes comme celles du collectif.
Il n'a pas été fracassé.
C'est une réalité. Ouais. Voilà, il n'a pas vécu un enfer absolu. Donc, ça va, tranquille. Au contraire, fais-le avec le sourire. Souriant, t'as une bonne tête, t'es sympa, t'es talentueux, t'as tout pour toi. Souris, fais juste un geste sympa, tu fais un match de rêve. Là, on a envie de retenir quoi? On parle pas de quoi? Regarde ce soir, on parle pas de son match qui est magnifique. On parle de ce qu'il a voulu faire, de ses gestes. C'est nul. Voilà, c'est nul pour lui, c'est nul pour son équipe, c'est nul pour tous les gens qu'il apprécie. Et voilà, j'aime pas ça. Alors, je trouve que c'est, en plus, ça fait pchit. Il est à côté de la plaque.
Parole à la défense, maître Rotten.
Jérôme a encore changé d'avis.
Vous avez changé d'avis alors?
Ouais, bah en fait, je vais mettre avec Dugarry. En fait, voilà, je vais mettre avec Dugarry. Je vais l'attaquer.
C'est vrai?
Ouais, ouais. Ben oui, ouais. Ben en fait, je reste.
C'est incroyable.
Je reste sur.
Voilà, une émission vivante.
Je reste sur ce que je pensais. Parce que, non, mais parce que à l'arrivée, c'est exactement tout ce que t'as dit, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que
scénario qui se répète.
Oui, mais
ce matin, on en parle. Tu changes d'avis en conversation.
Non mais ça se. En fait, non mais parce que ça m'a retourné le cerveau. Non mais des fois tu sais que j'ai pas grand chose à faire, je me suis retourné le cerveau toute la journée. Mais
heureusement que t'es pas politicien.
Ils vont peut-être m'appeler, hein, mais c'est pour ça.
Eux aussi.
Je pense que demain je suis dans les grandes gueules. Ouais. Voir Apolline. Voilà.
Pourquoi?
Ça lui fera du bien. En tout cas, moi je pense que en effet c'est des gestes qui n'ont pas lieu. Et je reviens sur la phrase de Dugas quand il dit en effet si c'est pour répondre et c'est toutes les infos que j'ai du Paris Saint-Germain, c'est pour répondre
répondre un peu à ce contexte, aux médias, aux critiques qu'il a eues. Mais mon Dieu, mais moi, alors ça arrivera jamais, mais viens jouer dans mon PSG, moi, de l'époque. Tu vas voir les critiques qu'on prenait sur la tronche. Mais on en prenait des belles, des critiques. Et là, en effet, au bout de 2 mois, 3 mois.
Tu étais nul aussi.
Peut-être. Mais tu sais, du gars, l'arrivée, on n'était pas bon. Et les critiques, de toute façon, quand elles sont là, en général, on n'est pas loin de la vérité quand tu te fais critiquer.
Et pour
preuve, c'est que Luis Enrique, s'il était au meilleur de sa forme, tu crois qu'il aurait été remplaçant
hier?
Exactement.
Très bon argument.
Il est remplaçant.
Bah, oui.
Donc, vu qu'il est remplaçant, donc, Luis Enrique, si tu veux, il répond à toutes ses critiques.
C'est peut-être pour son entraîneur alors qu'il a fait ça.
Écoute, moi tout à l'heure, tu sais, j'ai posé à un membre du staff du PSG la question. Je lui ai dit non, mais vous êtes gentil. Ok, il n'y a pas de problème, c'est pas sur Dembélé. On a compris, la relation, elle est fusionnelle entre les deux, ils s'entendent très bien, pas de souci. Donc, c'est pour l'entraîneur. En lui montrant, parce que tu sais, des réactions à la con, et c'est humain. Et moi, je suis passé aussi par là. C'est quand l'entraîneur il veut te punir ou il te met sur le banc, et t'es un peu frustré, t'es énervé, tu rentres premier ballon, tu marques. T'as une façon de lui dire.
Ouais, voilà,
regarde, je me mets le. Ouais. J'écoute pas les critiques. Tes choix, tu les referas une prochaine fois différemment.
Ouais.
Parce que là, je te fais gagner. Ouais. Et le deuxième but le montre aussi. Donc en gros, pour moi, tu donnes à manger à tous tes détracteurs. En faisant ça. Et ça montre quelque chose où c'est une erreur. Alors après, il ne faut pas être définitif sur lui. C'est un jeune joueur. Et il est tellement talentueux que moi, je lui fais confiance. C'est peut-être la dernière marge de progression qu'il a. C'est ça. C'est comment le message qu'il envoie quand il y a des critiques qui fusent. Parce que c'est,
ça fait le bah, mec. Justement, elle est bonne, ses réactions.
Parce que t'envoies un message comme quoi le mec, il est susceptible sur son image.
Exactement.
Il est hyper talentueux. Il est beau. Il a tout pour lui, il montre les abdos. Et en plus, ça fait enfant gâté.
Exactement. Et c'est pour ça, moi, je finis là-dessus.
Allez,
c'est là-dessus, il doit progresser là-dessus parce que, en effet, la remise en question, t'en as besoin. Et là, la preuve, il a pas eu besoin de la presse ou de son entraîneur pour se remettre en question. Il a été bon quand il est rentré. L'énervement, la frustration qu'il a eue, il l'a transmise en positif pour son équipe. Eh ben, sers-toi des critiques. Comme ça, quand elles sont là, elles sont plus ou moins justifiées. Du moment que c'est pas la vie privée, ça reste sur le terrain. Sers-toi de ça pour réagir.
Vous vieillissez mal, c'est pas possible.
Vas-y.
C'est pas possible.
Vas-y.
Il a eu la meilleure des réponses possibles. Il a été performant sur le terrain. Luis Enrique le met sur le banc. Et Luis Enrique, je trouve qu'il a eu la bonne réaction de le mettre sur le banc parce qu'il sortait d'un non-match à Rennes. Il le met sur le banc. Désiré Doué a la réponse mais parfaite. Il a été étincelant sur le terrain, qui met ses mains sur les oreilles, le doigt dans les oreilles. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Il montre qu'il a du caractère. C'est un jeune joueur. Il a droit de réagir comme ça. On a tous de l'ego. Jérôme, Duga, moi, on a tous un peu d'ego. Il a peut-être été un petit peu piqué, mais au final, la meilleure des réponses qu'il a données, c'est sur le terrain, en mettant ses deux buts, en étant sur le deuxième.
T'es pas obligé alors.
T'es pas obligé, mais moi ça me choque pas. Je trouve qu'il y a quelqu'un
d'humain
qui a peut-être été piqué un petit peu par les remarques, soit de Dembélé, par le fait d'être sur le banc, même si je trouve que c'était logique qu'il soit sur le banc sur ce match-là. Il a répondu de la meilleure des manières. Il fait face à une grosse concurrence à son poste. Il sera. Pour moi, il a répondu de la meilleure des manières.
Benoît,
les vieilles sont bien, les gars.
Tu penses que les critiques étaient tellement
dures. J'ai cru qu'elle me dire est-ce que c'est bien pour les gamins, non. C'est un exemple à suivre. L'exemple, il l'a montré sur le terrain. Il était fantastique, Désiré Doué.
Je me suis dit,
moi, le message qu'il a envoyé mon fils,
il a 20 ans. Il a 20 ans, il a droit, il a 20 ans.
Tribunal, Fred. Qui remporte ce procès?
On est loin, les 20 ans.
La doublette du gars, Rotten. Ou Benoît Costil?
Il n'y a même pas débat.
Écoutez, moi, je vais être. J'ai un avis tranché sur le sujet. Déjà, je trouve que. Je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un cirque, honnêtement, exactement. Je ne trouve pas ça dramatique. Comme l'a dit Ben Costil, honnêtement, il n'y a pas mort d'homme. Effectivement, depuis ces derniers temps, il est un peu plus en dedans. Il a des performances qui sont moyennes, mais effectivement, comme vous l'avez dit aussi, un petit peu comme tout le collectif du PSG. Il a montré sur le terrain hier soir que c'était un joueur de talent, de qualité. Il a répondu à toutes les critiques en faisant le match qu'il a fait hier soir contre l'AS Monaco. Maintenant, le geste qu'il fait, je trouve que c'est pas dramatique. Je pense que il y a pas besoin d'en faire une affaire d'état.
On n'a pas dit ça. T'es hors sujet là. Allez,
ouais,
qui a gagné?
Qui a gagné, Fred?
Voilà, t'es hors sujet là. On est d'accord, c'est pas dramatique.
Bah oui.
C'est pas le sujet. Alors.
Tu l'as.
Allô.
Tu l'as compris.
Oui. Allô, allô.
Ouais. Ah, vas-y, dis qui gagne.
Bon, toi, c'est qui?
Hein. C'est de la soif. Il y a pas beaucoup de réseaux, les gars.
Non, mais moi, je suis. Voilà, je suis de la vie. Je suis de la vie de Ben Costil. Parce okay. Que je trouve que c'est voilà. Pas, c'est pas dramatique tout ça. Et, voilà. et il a répondu de la meilleure des manières. Voilà.
Ah, mais ça, on est d'accord.
Les anciens combattants ont tort. Duga et Roten, victoire de Ben Costil sur ce procès. Merci Fred. Tu rappelles
quand
tu veux.
Bonsoir à tous.
Et dans un instant, allô Jérôme. On ira en Espagne retrouver Edgar Grolot. On va tout vous dire de ce qui s'est passé hier, le scandale. Entre le Benfica et le Real, les accusations de racisme de Vinicius envers Presciani. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC. On est là dans Roten sans flamme. On finit la première heure avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil et avec Benoît Boutron. On va passer à analyser ce qui s'est passé avec Vinicius, le Real Madrid, sur la pelouse du Benfica de Lisbonne au Stadio de la Luz. Mmh. On va recevoir Edgar Grolot dans un instant. Et après 19h, on va parler, pour changer, de l'Olympique de Marseille.
Est-ce qu'Habib Bey est l'homme de la situation à Marseille? 32-16 supporters marseillais. Vous aurez les toutes dernières infos avec Flo Germain. Et puis un match en cours en Ligue des Champions, 16e allée de Ligue des Champions. Sachez que Newcastle vient d'ouvrir le score sur la pelouse de Carabag. 1-0 pour les Magpies. Tout de suite, on file en Espagne.
RMC, Roten sans flamme.
Dans la célébration de Vinicius, il y a eu une échauffourée et Vinicius est fou de rage. Il est allé se plaindre auprès de François Le Texier et Monsieur Le Texier a fait le signe des bras croisés pour déclencher visiblement le protocole anti-racisme ou discrimination. Le jeu est arrêté à Lisbonne après 54 minutes de jeu.
Allô Jérôme.
Edgar Grolot, notre correspondant en Espagne, est avec nous. Salut Edgar.
Salut Benoît, salut Jérôme, salut tout le monde.
Alors ça ne vous a pas échappé, forte polémique autour du match entre le Benfica et le Real, la victoire des Madrilènes 1-0, les accusations de racisme de Vinicius envers le jeune joueur argentin du Benfica, Gianluca Presciani. Est-ce que tu peux nous rappeler les faits pour commencer, Edgar, s'il te plaît?
Oui, donc Vinicius ouvre le score à la 50e minute, il célèbre en dansant devant le poteau de corner, et ça ne plaît pas au public. Il y a des jets de projectiles, il y a des tensions avec les joueurs adverses, et puis Gianluca Presciani, qui est donc l'ailier droit de Benfica, cache sa bouche avec son maillot et dit quelque chose à Vinicius. Tout de suite, instantanément, Vinicius se retourne et sprinte presque vers l'arbitre François Le Texier. Là, il lui dit que Presciani l'a traité de mono. Mono en espagnol, ça veut dire singe. L'arbitre déclenche le protocole anti-racisme. Il interrompt le match. Vinicius quitte le terrain, explique à tout le monde ce qui s'est passé. Ses coéquipiers sont prêts à rentrer au vestiaire avec lui s'il le décide. Et puis finalement, après 8 minutes de flottement, le match reprend. L'Argentin Presciani, lui, a assuré sur les réseaux sociaux quelques heures après le match qu'il n'avait pas traité Vinicius de singe, que Vinicius avait mal compris, mais la version d'autres joueurs comme de Kylian Mbappé contredit ses propos, puisque Kylian Mbappé dit qu'il a entendu insulter Vinicius Junior.
Alors justement, parle-nous du rôle de Mbappé dans cette histoire, parce que lui est monté au front pour son coéquipier. Hein.
Oui, c'est ça, il a confirmé la version de Vinicius. Écoutez sa prise de parole très claire en zone mixte après le match.
Le numéro 25 de Benfica, dont je tairai le nom car il ne le mérite pas, a commencé à mal parler. Il a mis son maillot au-dessus de sa bouche et a dit 5 fois que Vinicius était un singe. Je l'ai entendu et des joueurs de Benfica l'ont aussi entendu. Pour moi, ce joueur ne mérite plus de jouer la Ligue des Champions.
Et sur le terrain aussi, hein, il avait déjà réagi. Il s'est adressé directement à Presciani en lui disant plusieurs fois, je cite, « Tu es un putain de raciste ».
Qu'est-ce que tu peux nous dire des réactions en Espagne et au Portugal aujourd'hui alors?
Alors en Espagne, il y a eu une unanimité sur ce sujet-là. Il y a énormément de soutien à Vinicius. On parle d'une situation honteuse. Il y a eu d'autres cas de racisme contre Vinicius ces dernières années. Donc malheureusement, cette situation n'est pas une première ici. Même si là, la nuance, c'est que c'est un joueur directement qui est accusé et pas seulement des supporters comme ça a pu être le cas dans certains stades espagnols. Il y a beaucoup de déceptions aussi, notamment chez les supporters madrilènes autour des propos de Mourinho qui a critiqué la façon de célébrer de Vinicius en disant que c'était provocateur. Et puis au Portugal, j'imagine que la réaction de Benfica ne vous a pas échappé. Ça a aussi beaucoup surpris pris notamment ici en Espagne. Le club n'a pas attendu une éventuelle investigation sur le sujet, a 100% soutenu la version de Prestiani et a même sorti une vidéo censée montrer qu'aucun joueur du Real n'aurait pu entendre Prestiani parler.
Edgar, reste avec nous. Je précise qu'en termes de sanctions possibles, le joueur argentin Prestiani risque jusqu'à 10 matchs de suspension. Il y a une enquête en cours de la part de l'UEFA. Comment vous réagissez? Comment vous avez suivi cette histoire, Jérôme? Qu'est-ce que tu veux dire sur ce dossier-là?
Ah ben, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune circonstance atténuante pour le joueur de Benfica et les supporters de Benfica, parce que là, on se focalise à juste titre, parce que ces mots-là n'ont rien à faire sur un terrain de football, quelles que soient les insultes et les échanges et le chambrage des joueurs. Le chambrage, on est passé par là sur le terrain, il y en a beaucoup, et plus les niveaux montent, en général, avec des matchs à haute tension, du chambrage, il y en a beaucoup. Il y a des insultes, en effet, mais il y a des choses qui sont impardonnables, en fait. Tu peux pas accepter ce genre de discours. Moi, tu sais, quand j'entends ça, je me vois, j'ai mon fils, mon dernier, il a 11 ans. Je me dis, dans 8-9 ans, donc il a 20 ans, il se chope avec quelqu'un et il sort de sa bouche le mot singe. Mais franchement, j'ai raté quelque chose, en fait. J'ai raté quelque chose. Déjà, il prend deux beignes, mais plus que deux beignes. Et de toute façon, je suis persuadé qu'il n'aura pas ce mot-là qui sortira de sa bouche. Parce que c'est inconcevable. On peut pas, aujourd'hui, dans le monde, mais même avant, même mon monde, quand je jouais au football, mais jamais de la vie, j'aurais pu sortir un mot comme ça ou entendre ça, même d'un supporter. J'ai vu des gestes des supporters de Benfica, ouais. En imitant les singes. Des gamins de 15 ans qui imitent des singes en regardant Vinicius. Et comment on peut accepter ça? Comment l'arbitre qui voit ça, parce que moi on l'a tous vu à la télé, donc comment encore le mot là, le 25 de Benfica, comme le dit Mbappé, j'ai même pas envie de citer son nom à celui-là, mais il assume pas alors qu'il y a des gens, l'arbitre a pas entendu, ok, il a pas entendu, donc il peut, pas,
Monsieur
il
Texier,
peut pas sanctionner, oui. Mais par contre les gestes des supporters, on les a vus. Comment toi tu vois, tu t'indignes à juste titre? C'est quand même le racisme fait partie des causes de...
Parce que Jérôme, il faut arrêter de s'indigner, Jérôme. Là, quand tu vois la réaction de Mourinho et quand tu vois la réaction du club du Benfica, le drame, c'est quoi dans tout ça? C'est qu'il y a un oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. C'est-à-dire que moi, je veux dire une chose. Et là, je vois Julien Clos, la déclaration d'Infantino, qui condamne sans aucune mesure, sans attente, sans rien. Mais mec, là, le joueur qui a fait ça, il ne joue plus pendant des mois et des mois. Le club, tu leur mets des points de retrait pour leur position, pour leur prise de position. Mourinho, la même chose. Mourinho, oui, mais. Non, il n'y a pas de oui, mais. À partir du moment où tu mets un oui, mais, c'est que tu cautionnes ce qui a pu être dit et que tu protèges ceux qui font toute cette merde dans les tribunes ou sur le terrain. Il est là le problème. Et c'est que tant qu'il n'y aura pas des vraies sanctions,
ça donnera, parce qu'il y a tout ça qui fait que ça va reculer. Malheureusement, c'est débile.
Et tout le monde se permettra de faire ça, exactement. Mais sanctionnez-moi ces gens-là, mais pour de bon, pour de vrai. Parce qu'autrement, tu peux s'offusquer, mais ça ne changera rien. De s'offusquer, ça ne sert à rien. Il n'y a que la sanction qui fait que les gens pourront je sais pas, ça va leur mettre du plomb dans la tête, je sais pas ce que ça va leur mettre, j'en sais rien, mais c'est, tu te rends compte de dire des choses comme ça,
tu t'imagines du gars, le gamin de 15-16 ans qui imite le singe derrière le but, ce gamin là en fait il va avoir aucune punition, en fait
même les autres, les gens, mais même les autres, les gens qui sont là à côté, même si c'est pas ton fils,
mais tu lui mets deux veines, mais oui, mais exactement, dramatique.
Non, mais après, moi je suis totalement en phase avec Jérôme et Christophe. Enfin, voilà, il y a même pas débat, quoi. Je veux dire, juste qu'on nous sorte pas que éventuellement Vinicius pourrait être
c'est la meilleure,
ça on en a rien à foutre, quoi. Je veux dire,
il est là le drame dans cette situation. C'est le oui mais, il est insupportable.
Exactement. Il n'y a pas à minimiser les choses et ça doit être condamné, sanctionné, tout ce que tu veux, mais avec des vraies réactions, avec des vraies sanctions fortes et significatives, quoi.
Mais aujourd'hui, tu condamnes et tu sanctionnes plus. Sanctionne, attends, ça fera
condamnation. Tu vois des réactions de Mourinho, quoi que ce soit, tu mets limite la faute sur Vinicius, faut arrêter les conneries.
Mourinho, c'est honteux ce qu'il dit.
Il prend des précautions,
il essaie d'amener, de formuler une espèce de phrase.
Ce qu'on a entendu, je le précise d'ailleurs, du gars, il a dit, moi j'ai entendu la version de Vinicius, la version de mon joueur aussi, chacun chacun a sa vérité. Voilà, moi je suis pas là pour trancher. Voilà,
oui, je trouve que le TC a bien réagi.
Oui, mais comment il fait pour réagir après son but comme ça? Donc il légitime quand même les attitudes des supporters. Il légitime quand même que Vinicius a été le chercher un peu ce qui s'est passé.
Oui, c'est ça, exactement. Mais en fait, Duga, c'est ça le problème, c'est que même derrière, il a une parole, il dit il faut pas s'étonner que Vinicius dans tous les stades, ça se passe comme ça.
Toujours le même joueur,
Mais tu te rends compte, vous rendez compte mais
il faut le sanctionner, Mourinho et le club pareil.
Mais
la première des attitudes, si le club veut éduquer ses supporters, exactement, il doit avoir une attitude. Il doit au moins pas prendre parti. Au moins, tu vas avoir du recul, de dire on attend avant de savoir. Et s'il faut sanctionner ton joueur, tu sanctionnes ton joueur.
C'est tout, ben oui, exactement.
Et c'est là la classe et l'élégance que doit montrer Benfica. Parce que ça, excuse-moi, mais tous les mots peuvent être dits. Donc le joueur, il a peut-être dit. Et moi, je pense sur ce que j'ai vu, j'ai aucune preuve. Moi, je pense qu'il l'a dit.
Quand même.
Et s'il l'a dit, il est sanctionné. Si demain matin mon fils il fait ça, mais il sera sanctionné. Mais j'imagine même pas. Mais au bout d'un moment, même si c'est ton fils et même si c'est tes supporters et même si c'est ton joueur qui a pu dépasser les limites, comme ça a été le cas hier, je pense. Ça peut arriver de dépasser des limites, même si elles sont les plus horribles du monde. Ça peut arriver. Mais quel moyen tu donnes, pour sanctionner ça et pour que ça se passe plus si tu sanctionnes pas et si tu dis pas les choses.
Un grand merci.
Tu laisses un espoir et dire à ton joueur peut-être que il a peut-être eu raison, c'est pas grave, ou peut-être que si, ou peut-être que ça. Mais non, c'est
très grave.
Un grand merci à Edgar Grolot qui est venu nous relater les faits. Merci Edgar, en Suisse dossier, évidemment, sur rmcsport.fr. Et je précise que dans l'image qu'a pris Jérôme sur son fils et les éventuels De Bain, c'est une image. Jamais Jérôme irait mettre De Bain comme ça à son fils.
Non, mais de toute façon, il le dirait pas. C'est une question d'éducation. Non, mais
il n'y a pas d'histoire. C'est une image. Il n'y a pas d'histoire de violence. On ne cautionne jamais la violence dans cette émission. Rassurez-vous, connaissant la relation qu'il a avec son fils.
Rassurez-vous, il est pas malheureux.
Tout va bien. Voilà.
À la place d'Mbappé, j'aurais même pas cité le numéro 25.
Donc vous avez toutes les infos sur
Rennes. Imagine notre numéro, Benoît. Il nous l'a sali, celui-là.
Je le porterai plus, tiens.
Dans un instant, Rotten se chauffe.
Ça tombe bien, on le porte plus.
Est-ce qu'Habib Bey est l'homme de la situation pour Marseille? À tout de suite sur RMC.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.